A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut les extraterriens. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui m'a donné des frissons dans le dos et dont je vais me souvenir très longtemps. Mon invité du jour a une histoire exceptionnelle et le récit que vous allez entendre est aussi tragique qu'inspirant. En effet, Maxime, que vous allez découvrir dans cet épisode, a échappé à la mort de très peu. En début 2017, lors d'un match de rugby, après un mauvais plaquage, il prend un coup de genou derrière la tête. Quelques minutes plus tard, il se met à vomir et s'effondre au bord du terrain. Quand il se réveille, il pense qu'il n'a rien, mais il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à marcher et il n'arrive plus à manger. L'infirmière lui dit qu'il va devoir tout réapprendre et qu'il en a pour un bon bout de temps. Vous allez entendre cette histoire dans laquelle Maxime va mettre plein de choses en place pour retrouver les capacités de son corps qu'il a perdu lors de son accident cérébral. Aujourd'hui, Maxime est devenu un ami, mais aussi un exemple pour moi tant je le trouve courageux et résilient. J'ai la chance de m'entraîner avec lui de temps en temps et je peux vous dire que c'est autant une machine qu'un bon chambreur, qu'un rassembleur avec qui on passe des bons moments. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin tant cet épisode est rempli de bonnes énergies et de conseils pour rester toujours optimiste. Maxime est un excellent storyteller et il nous a offert plein de bonnes anecdotes que vous allez adorer. Aujourd'hui, Maxime, c'est le boss de Aerox France que je remercie car ils ont sponsorisé cet épisode. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre ma préparation, vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Strava. Je vous mets mes pseudos juste ici. Bon, trêve de bavardage, on met ses baskets, on va sur le rameur et on se plonge dans l'univers de Maxime Villalongue, le boss de Aerox France. Eh ben, salut Max.
Salut Bart.
Comment ça va ?
Impeccable. Très content d'être là.
Bah écoute, moi aussi, ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on se côtoie et qu'on avait prévu de faire cet épisode. Donc je suis hyper content d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de ma nouvelle passion et pour pouvoir découvrir aussi plus en profondeur ton parcours. Parce que je sais que tu as une histoire très touchante, aussi un peu rocambolesque on peut dire, un parcours de vie assez unique et moi qui m'a beaucoup inspiré. Et donc pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai commencé à préparer l'interview et je me suis dit j'ai quand même envie de garder des petites surprises pour aujourd'hui. Mais voilà, pour donner un petit peu de contexte aux auditeurs, donc Max, on s'est rencontrés via Aerox parce qu'aujourd'hui tu es responsable France et puis on s'entraîne quelques fois ensemble.
On essaye,
j'essaye de suivre. Avec Héloïse qui est là juste à côté. Donc on va parler Aerox, on va parler aussi rugby, on va parler de ton histoire exceptionnelle. Mais avant tout ça, j'ai une première question que j'adore poser à tous mes invités. Personne n'y a échappé. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Et mon premier souvenir de sport, il est forcément lié au rugby que j'ai pratiqué pendant 20 ans. Premier entraînement en rugby, après 8 ans d'existence, c'est la première fois que je me mets sur un terrain et la sensation que j'ai ressentie de plénitude, genre l'impression d'être là où je voulais être et là où j'avais besoin d'être. Mais voilà, c'est ça mon premier souvenir au sport.
Ok, 8 ans du coup ?
C'est à 8 ans.
Ok, c'est papa qui te met sur un terrain de rugby ?
C'est papa en effet qui me met sur un terrain, sachant qu'on vient d'une famille du côté de mon père rugbyman, il a jamais forcé à ce que j'aille avant, parce que beaucoup ont commencé à 4-5 ans le rugby chez les très très jeunes. Moi il m'a laissé tout faire avant, et puis un jour il m'a demandé est-ce que j'avais envie d'aller essayer le rugby. J'ai dit pourquoi pas, j'adore essayer de nouveaux sports, j'avais fait pas mal 5 ou 6 sports avant déjà.
À 8 ans, au cheval.
J'ai eu du cheval, du judo, pas mal de choses. Et à 8 ans, j'essaye le rugby. Et puis là, c'est la première fois où depuis que j'avais commencé à essayer quelques pratiques, que je me suis dit, mais en fait, j'adore. C'est ça que je veux faire. Et c'est là qu'une espèce de première révélation, donc premier souvenir sportif très fort, c'était à ce moment-là.
Ok. Tu te souviens de ce qui t'a plu? Est-ce que c'est le fait de se rouler par terre? Est-ce que c'est les copains? Est-ce que c'est le jeu avec un ballon? C'était quoi qui t'a enthousiasmé en tout cas pendant toutes ces années?
Bah, je pense qu'en effet, au départ, c'est un peu tout ça. C'est les copains, d'être sur un terrain en extérieur. Jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup de sports indoor, individuels. Mmh. On le verra peut-être en parlant plus tard, mais j'ai un vrai esprit de groupe, de communauté. J'aime beaucoup rassembler, j'aime beaucoup pratiquer avec des personnes. Et c'était la première fois où je pratiquais avec du monde. On n'était pas tout seul, on était seul, mais dans un collectif. Donc, on avait besoin de tout le monde. Même si c'était assez jeune, c'était... assez intéressant de prendre part à tout ce truc-là. Et voilà, effet de groupe, les copains, le soleil, j'étais dans le sud, c'était à Grasse. Non, c'était assez cool. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est ce que j'aime. Et ça s'est confirmé par la suite, parce que ça se retrouve, quoi. L'extérieur, les copains, le groupe, la préparation. Donc, okay. C'est ça que j'aimais beaucoup.
Est-ce que tu as rêvé un petit peu de haut niveau et de devenir champion? Parce que, attends, on a à peu près le même âge, du coup, quand tu avais 8-10 ans, c'était l'équipe avec les Ntamack, les Bernat Sall, Dominici aussi les premières
exactement.
Années.
Ouais.
C'était une très belle équipe.
Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai rêvé de tout ça et c'est pour ça qu'à 14 ans, je suis parti jouer au Stade français. Chez les jeunes, donc j'ai commencé en minime au Stade français. J'ai fait mes armes au Stade français jusque junior.
Ok.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans le rugby. J'ai fait un sport études rugby la Canal, c'est un pour les sports France. J'ai eu des sélections nationales en moins de 16 et moins de 17. Et j'ai fini en catégorie espoir au Racing Métro en dernière année en espoir. J'ai rêvé pendant jusqu'à, on va dire, mes 17 ans de rugby. Après, la vie, j'ai un peu dévié, on va dire. J'ai été plutôt côté troisième mi-temps que côté sport pendant de 17 à 19 ans. Bon, je me suis un peu brûlé les ailes à ce moment-là. Et c'est un peu la raison pour laquelle, enfin, pas la raison parce que j'avais sûrement pas le talent et le nécessaire pour être pro, mais en tout cas, ces moments clés, c'est à ce moment-là que j'ai commencer à penser à autre chose et peut-être me dire qu'il y avait autre chose à faire derrière. J'ai quand même réussi à reprendre derrière en espoir au Racing, mais après j'ai plutôt continué pour du loisir et la passion que pour du sport à haut niveau.
Ouais, bien sûr. C'est fou ça, hein, quand on est ado, qu'on découvre la vie et tout, qu'on peut s'éloigner de nos rêves de gamin, quoi.
Ouais.
C'est dingue ce truc.
Ah, c'est dingue parce qu'on s'est dit, on y croyait pendant des années, et puis à un moment, on tombe dans un rythme de vie différent, une vie sociale différente, et finalement, je pense sincèrement qu'il n'y a peut-être pas la passion suffisante et assez forte pour mettre de côté ces perturbations et rester focus dans cet objectif au niveau. S'il y avait eu, bah, je pense que j'aurais tenu ce cap. Si je ne suis pas allé, je me dis que c'est qu'a priori, j'étais pas fait pour ça, profondément fait pour ça.
Ouais,
donc,
ouais,
sans regret.
Ouais, sans regret.
Aucun.
Ouais. Ouais, c'est vrai que, tu vois, moi, plus je grandis, plus j'ai enterré un peu le rêve du haut niveau gamin, tu vois. Je me dis, mais plus je grandis, plus je rencontre des champions, plus je vois les sacrifices et la vie qu'il fallait mener. Je sais pas si j'aurais été épanoui. Je l'aurais fait par automatisme, par envie de gagner, par envie de triompher. Mais je sais pas si au fond, j'aurais eu tout l'épanouissement nécessaire pour être heureux.
Ouais, c'est une vraie question, parce que c'est énormément de sacrifices. Parce qu'on n'est plus seulement sur du dépassement mental qu'on peut avoir dans un travail intellectuel assis à un bureau, on est sur un dépassement mental, stratégique, une pression hebdomadaire pour le match, pour la qualification, le week-end ou pas. Et en plus de ça, on met notre corps à l'épreuve tous les jours, donc ce qui oblige d'avoir une rigueur et une discipline alimentaire, un rythme de vie que personne extra-sportif ne s'impose. Du coup, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt à ça. Et en effet, on n'est peut-être pas tous prêts à ça. Et on n'a peut-être pas tous envie. On a juste envie d'avoir juste le plaisir du jeu. Et en effet, il y a ce moment où tu es jeune, tu as envie de le faire parce que tu vois les grands et tu dis, ça va être trop bien. Ça va être trop bien de le faire. Mais après, tu arrives au moment où tu te rends compte que c'est beaucoup. Est-ce que tu es capable de faire autant?
Ouais.
Et c'est le moment où bah, moi j'ai switché, et je pense que beaucoup aussi en switch avant là.
Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser à une interview de Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Il dit dans une interview, en fait, que l'excellence, c'est savoir s'éloigner de la masse. Et peu importe ce que tu fais, en fait, que ce soit dans l'art ou dans le sport ou dans le business, en fait, le plus t'es loin de la masse, le plus t'es unique et le plus tu réussis. Et quand t'es ado, en fait, c'est hyper dur d'être loin de la masse parce que être accepté dans le groupe, c'est vivre, quoi. C'est créer sa tribu, et Dieu sait que pour des êtres un peu extravertis comme nous, c'est important de sentir qu'on a cette équipe-là autour de nous, quoi.
Bien sûr.
C'est hyper intéressant. Et à 17 ans, tu vois que quand même le rugby se professionnalise beaucoup, qu'on vous demande quand même de prendre pas mal de poids, de faire de plus en plus de prépa physique. J'avais vu aussi une étude que les joueurs à 18 ans maintenant, ils ont pris 20 kilos de plus comparé aux joueurs de 18 ans il y a 30 ans. Toi, à l'époque, c'en était où à peu près? C'était le moment où, en plus, pour moi, le rugby était vraiment au début de sa professionnalisation et devenir vraiment sérieux.
Ben, c'est exactement ça. C'est que nous, on est nés, on a commencé le rugby dans l'amateurisme, début du professionnalisme, mais on avait encore les valeurs que l'on pouvait voir avant, rugby un peu de clocher, troisième mi-temps, tout ça. Et on est arrivé à 18-20 ans dans cette phase de professionnalisme, enfin même entre 15 et 20 ans, mais c'était en train de se faire. Du coup, certains ont réussi à prendre le pli, d'autres n'ont pas réussi. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que toutes les générations qui arrivent, eux, naissent directement dans ce professionnalisme. Et quand j'échange avec des jeunes, ils ont une vision que j'avais à 13-14 ans, qui n'est pas la même que j'avais moi à l'époque. Eux, ils ont directement les étoiles que j'avais, mais ils savent exactement le travail qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire. Ils n'ont pas cette naïveté que j'ai pu avoir et que beaucoup avaient à l'époque. C'est aussi pour ça, je pense, ça correspond un peu, je pense à la phase de creux qu'il y a eu en France, où pendant des années, on a eu un peu une phase de... On n'était pas au top du niveau, on était plutôt en bout de ligne. Mais dès que les nouvelles générations sont arrivées en équipe de France, et ces générations, celles qui étaient nées dans le professionnalisme, bah du coup, l'équipe de France a repris un peu en hauteur et en stature. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui est différente de ce qu'on a pu connaître il y a 7 ou 10 ans.
Ouais, il y a un volume de joueurs exceptionnel aujourd'hui qui est,
bien sûr,
qui est astronomique, quoi. À chaque poste, t'as deux gars qui pourraient être les meilleurs joueurs du monde à leur poste, quoi.
Tout à fait.
Donc, ok, impressionnant. Jusqu'à quel niveau tu joues, du coup?
Du coup, après les espoirs au Racing, j'ai tenté d'aller jouer en Fédéral Lune à Aix-en-Provence, mais en sachant que j'étais pas du tout dans le haut du panier, donc il fallait absolument que j'arrive à concilier mes études avec mon projet rugby. Aix-en-Provence, à l'époque, me dit pas de souci, on a un IUT qui est nickel pour toi, on va te faire rentrer tout ça. Donc j'arrive à Aix-en-Provence, en Fédéral 1, je fais la préparation physique estivale, et arrivé en septembre, je fais bon, ben ok, les cours commencent quand, comment ça se passe, j'ai toujours pas de nouvelles de l'école. Ils ont l'air de bégayer un peu. Je fais ok, bon, je dis bon, mais je vais aller tout seul à l'IUT, je vais aller me présenter, bonjour, Maxime Villalongue, on en est où de l'inscription, le commencement, l'école? Ah, mais vous n'êtes pas sur la liste, on est fou là cette année, monsieur. Comment ça? On m'a fait venir de Paris en me disant que j'allais avoir l'école ici, et il me dit ah non, désolé, c'est pas possible. Je fais, mercredi 13h, j'ai pris ma voiture, je suis sorti de l'IUT, je suis remonté à Paris. Et là, j'ai dit, bon, encore une fois, c'est un signe. Je suis parti jouer. Je suis retourné là où j'avais des amis, entraîneurs et joueurs à Gennevilliers, en Fédéral 2. Et du coup, j'ai pu continuer mes études et jouer au rugby par passion.
Fédéral 2. Tu voulais faire quoi professionnellement à l'époque?
Je voulais faire des études. J'avais pas vraiment de projet. J'avais toujours envie de créer un nouveau projet. J'étais tout en train de chercher à faire des choses. Mais je m'arrêtais, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc j'ai essayé de faire des études les plus générales possibles en me disant je vais faire aucune porte. Donc si derrière je veux créer mon propre business ou un truc comme ça, je sais que j'aurai les bases général pour pouvoir le faire.
Okay.
Et je me rends compte aujourd'hui, c'est que ce que j'ai vu il y a 10 ans, finalement, aujourd'hui, ça me revient tous les jours en tête et je suis, putain, j'ai bien fait de le faire, quoi.
je te comprends, ouais, ouais. J'ai eu un peu la même stratégie, mais c'était dur pour moi, les études. Enfin, après, j'étais un peu hyperactif et j'étais dans une voie scientifique assez rigoureuse.
Pas évident, ça.
Ouais, avec très peu de créativité, assez peu de d'état d'esprit entrepreneurial, tu vois. Donc, mais au moins, ça m'a appris voilà une certaine rigueur et ça m'a permis de rester un peu dans le moule parce que le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui se passe en février 2017?
Février 2017, c'était il y a pas longtemps là, l'anniversaire. Non, le 5 février 2017, lors d'un match entre contre Suresnes, donc c'était avec Orsay, c'est-à-dire le 2, je prends un coup de genou à la tête, de façon assez hasardeuse, hein. J'ai la tête dans un groupement, il y en a un qui arrive, qui me met un coup de genou, sauf que le coup, il est pris dans la partie arrière du cerveau qui s'appelle le cervelet. Mmh. Et le cervelet, c'est la partie qui contrôle l'équilibre, la parole. On voit un peu, on l'entend sûrement que je fourche parfois, c'est que j'ai toujours pas trouvé cette faculté totale de parole, l'appréhension, la coordination. Et du coup, toutes ces facultés-là ont été touchées par le coup. Sauf que ce coup, il intervient dans un match de rugby où on prend des coups. Mmh. A priori, un coup, ça arrive. Donc, je continue à jouer parce que j'ai pas de chaos technique, j'ai pas d'arrêt total, j'ai juste pris un coup. Je joue, je reste sur le terrain pendant une demi-heure, tout va bien. Mais sauf qu'en fait, ce coup avait occasionné une hémorragie interne, c'est-à-dire que le cervelet s'était mis à saigner. Et sauf que le cerveau est une cavité qui est fermée. Du coup, au bout d'une demi-heure, le sang avait pris toute la place à l'intérieur du cerveau, et c'est là que j'ai commencé à ressentir les premières séquelles. Et notamment, en fait, la pression était trop forte. Donc, je me suis écroulé sur le bord du terrain en plein match. Et c'était assez étrange parce que j'étais sur le terrain. Je n'ai pas pris de coup sur le moment, mais je me suis écroulé.
Combien de temps après le coup, à peu près ?
C'était une demi-heure après. Donc, c'est ça qui était assez étrange. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai mis du temps avant de comprendre d'où venait le coup et d'où venait l'accident. Donc je me mets sur le côté du terrain, là je me mets à vomir, je pouvais plus m'arrêter. Et j'étais allongé, j'étais conscient, mais je pouvais plus parler. Et je n'arrivais plus à m'exprimer, je faisais que vomir, les pompiers arrivent. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'un coup au cerveau, c'est une blessure qui est totalement invisible. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Mon visage était normal, il n'y avait pas de sang, il n'y a rien. Donc... le temps que les médecins, que les pompiers comprennent un peu ce qui pouvait se passer, j'ai eu l'impression que ça avait pris une éternité. Et assez étrangement, je suis jamais tombé dans les vapes, je suis toujours resté conscient. Entre le moment où les pompiers m'ont pris en charge du terrain et au moment où ils m'ont emmené à l'hôpital, je suis resté conscient, j'ai un souvenir de toutes ces parties-là. En revanche, je passe les portes du bloc opératoire et là, plus son, plus d'image. Et pendant 24 heures, plus rien. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le pronostic vital a été engagé le soir même. L'idée, c'était de savoir comment faire évacuer la pression et le sang dans le cerveau. Donc, ils ont posé un drain. Un drain, c'est un petit trou avec un tuyau pour essayer d'évacuer la pression. C'était pas suffisamment efficace, donc il a été question de m'ouvrir le cerveau en deux pour essayer d'évacuer la pression. Par chance, le drain a fonctionné. Et du coup, le lendemain, mon réveil, je me suis réveillé comme ça à l'hôpital, allongé, en mode bon, qu'est-ce qui se passe? J'avais un tuyau qui sortait, je pouvais plus parler. J'aurais eu toute ma famille autour de moi, des amis, ça avait l'air assez sérieux. Et là, on a commencé à me faire comprendre que j'ai appris un coup sévère au rugby. Un chaos, des chaos, j'en ai déjà pris. Hein. J'étais déjà arrivé de convulser parfois, j'avais eu ce genre de soucis. Et pour moi, mon réveil, c'était bon, j'ai pris un gros coup. Samedi, j'ai mon anniversaire à fêter, je serai sorti, tout ira bien. Et je me rappelle d'avoir l'infirmière à qui je dis ça. Je dis bon, combien de temps? Parce que bon, moi, samedi, j'ai mon anniversaire à fêter et tout ça, j'ai déjà organisé un truc et tout. Combien de temps ça va prendre? À quel moment je peux sortir? Et je me souviens de son regard. Elle me regarde, elle fait ouais, on en reparlera, monsieur Hildenang. Et, et là, j'avais commencé à comprendre que peut-être c'était un peu plus grave que prévu. Donc, ouais, voilà, c'est comme ça que l'accident est survenu. Et là, en fait, je suis alité. Je me nourris au début par intraveineuse. Je peux pas boire d'eau parce que je fais des fausses routes. Donc, l'eau, le liquide passe dans le mauvais trou, donc je m'étouffe. Donc je bois de l'eau gélifiée, c'est un concept que je ne connaissais pas, c'est infâme.
C'est dégoûtant.
Ah, c'est infâme, vraiment. Il donne des goûts parfois, donc de l'eau gélifiée avec un goût, c'est encore pire. Mais bon, ça existe. Et tant mieux, heureusement, parce qu'il faut s'hydrater, hein. Ouais. Sportif avant tout. Hein. Et voilà, donc là, s'ensuit un mois d'hospitalisation, donc alité totalement, avec... Alors, les différentes étapes, je me souviens plus, c'est réanimation d'abord. Donc, on est en soins intensifs. Donc, on a un suivi particulier. Après, on passe le stade un peu moins grave où là, c'est un suivi, autre suivi. Mais toujours alité tout pendant un mois et en essayant de communiquer de la meilleure des façons. Et je me souviens qu'il n'y avait que mon père qui arrivait à me comprendre. Et du coup, il faisait la traduction à chaque fois aux gens qui venaient. Parce que je pense sincèrement qu'il y a eu 150 personnes qui sont venues me voir parce que le rugby, c'est une petite famille. Ça faisait 20 ans que j'étais dans le milieu à Paris. Du coup, il y a peut-être, en ayant fait plein de clubs, plein d'équipes, le réseau se fait vite et j'ai dû avoir 150 personnes qui sont passées en 3 semaines. Et moi, j'étais alité, c'était comme ça. Je voyais les gens, je pouvais pas leur parler, je les voyais, mais ils voulaient venir, ils voulaient me voir et c'était sympa. Mais mon père traduisait du coup ce que je voulais dire. Il me lavait les dents et enfin tout. J'étais assisté total, quoi. Je pouvais rien faire. Parce que j'avais perdu toutes les.
Pendant 3 semaines, t'as perdu. Tout perdu, quoi.
Okay. Et au bout de 3 semaines, ils ont dit bon, on va essayer de le refaire marcher, peut-être. Mais avant de marcher, en fait, on ne se rend pas compte. Parce qu'il faut s'asseoir quand on est allongé.
Ouais.
Et donc, asseoir était un problème. J'ai pu m'asseoir 30 secondes la première fois. 30 secondes, envie de vomir. Je vais rallonger. Au bout de 30 secondes, on réessaye le lendemain 1 minute. Et c'est marrant parce que quand on a ce genre d'accident, c'est là qu'on se rend compte que chaque geste aujourd'hui qui nous paraît hyper facile et simple, en fait, on les a appris à un moment. Et moi, j'étais comme un enfant de 3 ans à 25 ans à réapprendre tous les mêmes gestes, mais simples. Tenir une tasse, parler, s'asseoir. Je passais par là et du coup, c'est... Ça donne une saveur particulière à chaque petite chose que tu fais.
Ouais.
Parce que à la différence d'un enfant de 3 ans, j'avais la connaissance de l'apprentissage. À 3 ans, on ne sait pas ce qu'on fait, on apprend, mais on avance. Ouais. Là, je savais où je pouvais aller et ce que je devais faire. Et donc, c'est ça qui est encore plus savoureux et frustrant parfois, parce qu'on sait qu'on sait le faire et qu'on l'a fait, mais savoureux parce qu'on se dit « Ah, putain, je sais le faire et je sais où ça peut m'amener après.
Ouais. » Qu'est-ce qu'on se dit quand on n'est même plus capable de s'asseoir 1 minute? Il n'y a pas quand même un moment où on se dit waouh, est-ce que je vais y arriver, quoi?
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je me suis jamais inquiété. Je pense que c'est pour ça que je suis revenu vite. C'est que je ne me suis pas inquiété. Je pense sincèrement, et j'en ai pris conscience plus tard, que je n'ai pas réalisé. J'ai pas, comme on dit, il y a des phases, il y a l'acceptation, la résilience, tout ça. J'ai pas réussi à accepter, je me suis pas abattu, mais, ou alors j'ai accepté trop vite, je sais pas comment le dire, mais je me suis pas inquiété. Je savais, j'avais un plan en tête, je savais où je voulais aller, et j'allais y aller. Peu importe, c'est ce que je voulais faire. Je voulais y aller. Et je me rappelle, ce qui me motivait à l'époque, c'est que moi j'aime beaucoup la moto. Je voulais absolument pouvoir reconduire. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était pouvoir reconduire une moto. C'est ça que j'avais en tête. Je voulais conduire. Et c'est marrant parce que il y a plein de choses bien plus intéressantes, peut-être faire du sport. Et c'est ce truc que je me rappelle que j'avais en tête, faire de la moto. Je veux être capable d'avoir un équilibre suffisant, une coordination suffisante pour faire de la moto. Et du coup, ce petit challenge, ce petit but, il m'a permis... donner envie de mettre plein de choses en place pour y arriver.
Merci beaucoup de le partager parce que déjà c'est bravo pour tout ça, tu vois, Et aussi, moi, je vois beaucoup de sportifs ou de personnes, des fois, qui n'osent pas assumer des motivations parce que ils considèrent que c'est pas louable, tu vois, ou que c'est pas des motivations nobles. Et moi, je considère que, au contraire, les motivations les plus bêtes sont, ou les plus, qui peuvent paraître les plus futiles, sont les plus puissantes, tu vois. Parce que c'est celles qu'on a à l'intérieur de nous et c'est celles qui nous nourrissent le plus.
Ouais, chaque personne a besoin de sa motivation, de sa source de motivation, peu importe qui qu'elle soit. L'idée, c'est juste d'avoir ce truc-là qui te permette de mettre les actions en place pour y arriver. Et en effet, ça peut paraître parfois futile pour certains, mais hyper important pour d'autres. Et c'est vraiment inhérent à chaque personne.
Ok. T'as écouté l'épisode que j'ai fait avec Kevin Roland ?
Non.
Mais je vais te l'envoyer après.
Ok.
Parce que ça me fait... D'ailleurs, je le recommande aux auditeurs et aux auditrices, mais c'est un épisode dans lequel lui aussi, il dit qu'il s'est pas posé de questions, quoi. Il dit, bon, bah voilà, ok, je sais pas m'asseoir. J'ai une semaine pour apprendre à m'asseoir.
Ok, ok.
Je sais pas mettre un pied devant l'autre. Ok, j'ai une semaine pour me mettre debout et faire un pas. Et il se posait même pas la question de est-ce que je pourrais refaire du ski, quoi. C'est déjà, waouh, déjà je suis vivant.
C'est exactement ça, le postulat, c'est j'ai la chance, j'ai une deuxième chance. Ce 5 février, pro une cyclité engagée dans le bloc opératoire, à tout moment, le lundi, je le voyais pas, c'était un dimanche. Le lundi, je le voyais pas. Mais j'ai eu la chance de le voir. D'autres personnes n'ont pas eu cette chance. J'ai un pote à moi qui était un an avant décédé sur un terrain de rugby à 24 ans. Et lui, la chance, il ne l'a pas eu. Plein de gens ont un accident, peu importe d'où il vient, n'ont pas la chance que nous, on a. On a cette chance, on te dit, mec, t'as failli passer, mais continue. Là, qu'est-ce que tu fais ? Mec, t'es vivant. Donc, tu mets tout en place pour avancer tranquillement et après, on verra. Et c'est pour ça que c'est bateau à dire, mais après, la vision des choses, elle est différente. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai un mindset qui est totalement différent de ce qui est avant. Mmh. Mais en effet, ce qu'a vécu Kevin Roland et ce qu'il s'est dit, c'est waouh, on est là, quoi. On est là, on a une chance que d'autres n'ont pas eu. Profites-en.
Quand tu regardes le jeune Maxime, avant son accident cérébral, et que tu regardes le Maxime maintenant, c'est quoi le plus gros point qui a changé chez toi ?
Moins de rêverie, plus de passage à l'action. Maintenant, je me rends compte que ça peut être court. Ça peut être court. On ne sait pas quand. On ne sait pas pourquoi. Mais ça peut s'arrêter. Je ne dis pas que ça va le faire. Mais je me dis que j'aurais pu avoir des regrets avant mon accident. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé faire, que je n'avais pas faites. Après ça, tu dis, ok, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Comme ça, si ça s'arrête un jour, j'aurai fait ce que je voulais faire, et basta.
Il y a des trucs un peu fous que tu as fait depuis, du coup, que je sais pas, que tu n'as pas encore dit.
des trucs un peu fous, non. Ce qui paraissait un peu fou par la réaction de mes médecins à l'époque et de mes kinés, c'est que j'ai mis donc un mois à l'hôpital à juste être allongé, j'ai réappris à m'asseoir, à marcher, j'ai eu 8 mois de rééducation en centre tous les jours.
8 mois, ok.
Il fallait apprendre à parler, à marcher, à tenir une tasse, à écrire, tout. Et du coup, ça c'était en février, je sors de rééducation au mois d'août avec la ferme intention de reprendre ma vie en main tout seul. Et je me dis que pour avancer, il fallait que je parte. Donc je suis parti finir mon master que j'avais entamé à Marseille. Là où j'avais pas d'amis, pas de famille. Je voulais être seul. Parce que je me suis dit, je parle très mal, j'ai un peu une dégaine un peu bizarre. Donc les gens qui me voyaient à Paris, qui m'avaient connu avant, avaient ce regard de, on voit une personne un peu handicapée. Et tu vois, le regard que les gens avaient envers moi, je l'acceptais pas totalement. Et je voulais que le regard des gens que je côtoyais soient tout à fait neutres et normales comme une personne lambda, tu vois, comme j'avais vécu avant. Et pour ça, je m'étais dit, il faut que je parte de Paris, que je rencontre des personnes qui ne connaissaient pas avant, qui du coup ne pouvaient pas faire la comparaison entre mon état avant et mon état d'après l'accident. Donc je pars à Marseille, je me refais une vie, et en me disant, bon, les gens, s'ils m'apprécient comme je suis, ben moi, ce sera comme je suis, et sinon non. Et donc ça me permet, en fait, parce qu'en partant, on peut dire que c'est une fuite, mais moi, je pense plutôt que c'est une construction. C'est qu'en partant, comme on part sur une page blanche, on construit. On n'a que à regarder derrière, devant, pardon. On ne regarde pas derrière. Donc, je construisais quelque chose. Ce qui m'arrive d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et comme à l'époque, j'avais vraiment une coordination très, très approximative, sport de balle, sport de raquette, tout ça, c'est impossible. Bah, je me suis mis à faire quelque chose que je ne faisais pas beaucoup, c'est courir. Donc, j'ai passé mon temps à courir. Je me suis mis à courir.
C'est le seul sport que tu peux faire au
à
début?
L'époque, ouais. Ouais, je pouvais courir en ligne droite. Quoi. Donc, au rugby, on ne fait pas des, footings. On est sur un terrain, on court 100 mètres, 200 mètres, mais c'est pas des footings. Du coup, je me suis forcé à faire ça. Donc, j'ai connu la phase de 3 semaines où on n'a pas envie de le faire, mais qu'après, on prend du plaisir. Et je me suis inscrit donc en janvier. J'ai des copines qui étaient à Paris qui me disent « On fait le marathon de Paris en avril. Nouveau max, challenge. Ok, j'y vais. Je veux pas de regret, je vais le faire. Marathon. » Et je savais pas courir, hein, donc j'ai dit « Bon, je le fais. » Je m'inscris en janvier. Et du coup, un an après mon accident, contre toute... indication médicale, je fais un marathon de Paris. Ce qui est une prouesse assez, a priori, assez folle d'après mes kinés et médecins.
Mais moi, je n'ai pas validé du tout.
Voilà, mais j'ai dit, bon, je ne suis pas mis en danger. Au contraire, j'ai fait quelque chose qui était intéressant. Et encore une fois, de s'être fixé un but en me disant, je veux finir ça, je veux faire ça. Ben, on met des actions en place et du coup, on progresse. Et du coup, c'est à chaque fois l'idée de un but, je progresse. Un but, je progresse. Et du coup, ben, c'était le début de... Ok, ce que je viens de faire là, j'aime ça. Me faire des challenges un peu... Peut-être qui peuvent paraître durs, mais finalement, pour les atteindre, c'est pas si dur que ça si on met les choses en place. Et donc, c'est une des choses... Bon, folle, c'est pas si folle que ça que j'ai pu faire. Après, je suis resté assez calme, mais j'ai toujours fait des actions qui étaient assez mesurées. Je faisais des choses... qui paraissait peut-être folle au départ, mais finalement que ouais. Je pouvais maîtriser. Je ne me mettais pas en danger.
Ok. J'ai l'impression en t'écoutant que peut-être ce qui était le plus dur à gérer pour toi, c'était le regard des autres quand même. Pendant cette phase où tu te reconstruis, pendant cette phase où tu te gères, je peux le comprendre. C'est d'être un peu avec, pas une forme de regret, tu vois, mais une forme de peut-être de nostalgie de qui t'étais avant et tu vois que dans le regard des autres, ça a changé. Ça fait mal, quoi, quand ça vient de ses amis ou de ses proches. J'ai rencontré beaucoup, tu vois, d'athlètes paralympiques. Et il y a souvent un mot qui revient de leur part, tu vois, sur comment réagir. Tu sais, quand je leur demande comment réagir, comment se comporter, il y a un mot qui revient très souvent, c'est « pas de pitié ». Tu vois, n'ayez pas pitié pour moi, en fait. J'ai l'impression que ce que tu décris un peu dans le regard des autres que tu as vécu, c'était un peu ça, que tu le ressentais.
C'est totalement ça, c'est pitié. Moi, je disais de la pitié... Mais je pense que ce n'est pas de la pitié, c'est juste la bienveillance. On voit ouais, quelqu'un, un proche à nous, qui est dans le fond d'un lit d'hôpital, qui ressemblait, qui faisait 86 kilos, qui avait un sourire à 24, qui là en fait 75, amoindri, il ne sait plus parler. Donc je ne suis pas sûr que ce soit de la pitié, mais peu importe ce que c'est, pour moi je le ressentais comme tel. C'est juste on me regardait en mode... Mec, t'es affaibli, t'es pas bien. Et dans ma tête, moi, j'avais ma tête encore qui tournait. Je pouvais pas m'exprimer, mais je pouvais penser. Et c'est.
Ouais, t'as toute ta pensée qui est là, en fait.
J'ai mon cerveau qui ne s'est pas arrêté. Ouais. Donc, j'ai été prisonnier de mon corps, dans le sens où je réfléchissais, je voyais ce qui se passait, mais je ne pouvais l'exprimer. Donc, c'était ça. Et du coup, ben, je voyais les gens autour de moi, le regard de ces gens-là. Proches, famille, amis, et c'est hyper important parce qu'on sent que ça leur fait mal, et c'est ça qui faisait plus mal. C'est de voir souffrir, parce que finalement leur souffrance était psychologique, la mienne était plutôt physique. C'est plus facile à gérer une souffrance physique que psychologique, mais pour moi ça me faisait cœur sasser de voir ça. Et en fait même eux, c'est juste c'est dur d'être mis au face à ce genre de situation tous les jours. Du coup, pour tout le monde, le mieux, c'était que je parte et que je me reconstruise ailleurs. Même si ça n'empêchait pas les gens de penser encore à moi, c'était plus intéressant pour eux de savoir que je m'épanouissais ailleurs que de me voir en train de galérer à Paris ou ailleurs, tu vois.
Ouais, ok. Merci de partager ça, c'est courageux, je trouve, tu vois, et de le dire, et c'est bien de faire passer aussi ce message-là de, bah, c'est des situations délicates pour tout le monde, et que, ouais, toi, t'as la double peine de voir souffrir tes proches aussi, qui ont du mal à se positionner. Peut-être juste dernière question sur le sujet, tu vois, moi, avant de préparer l'interview, je savais pas du tout que t'avais, des séquelles, ou tu vois, j'imaginais pas du tout. Toi aujourd'hui, est-ce que tu t'as encore de la rééduque sur certains sujets ou il y a encore des sujets sur lesquels tu rebosses pour développer une compétence, tu vois?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Non, je fais plus rien aujourd'hui. Je fais plus du tout de rééducation spécifique. Parce que, bon, ceux qui ont chez le kiné ont très vite compris que le kiné, ce qu'il fait, c'est des exercices de sport. Je dis, je fais du sport. Ça, pour le moteur, c'est intéressant. Après, rééducation orthophoniste, j'essaye de m'appliquer le plus possible. Je fais parfois des exercices le matin d'articulation que mon orthophoniste à l'époque m'avait conseillé, ce que les acteurs ils font avant leur scène, tout ça.
Ils font quoi?
Ils font des A, E, I, O. On essaie d'accentuer les syllabes, les voyelles. On ouvre la bouche. On fait des exercices de bouche, tout ça, de mâchoire. Ça, je le fais de temps en temps, mais vraiment très peu. Je fais des podcasts, du coup, pour parler au maximum. Ça, c'est facile.
Bravo pour l'exploit, hein, franchement. Si on t'avait dit ça il y a 7 ans, je pense pas que tu aurais
cru. Et ça fait... J'ai jamais eu l'occasion de parler de façon... aussi libre que je le fais maintenant. Donc, c'est assez dingue ce que je suis en train de livrer. Je pense n'avoir jamais fait aussi profondément. Donc, merci, Bart, pour ça. Et après, il y avait une rééducation qui s'appelle l'ergothérapie. Un ergothérapeute. Un ergothérapeute, c'est un rééducateur du quotidien. C'est comment t'aider à vivre au quotidien. Donc, moi, mon ergothérapeute, que j'apprécie beaucoup, Claire Barato, que je vois encore, m'apprenait, elle venait dans ma chambre le matin et du coup, bah, en fait, j'étais incapable de tenir ma tartine pour la mettre dans mon café, par exemple. Je pouvais pas le faire. Donc, j'arrivais pas je tremblais beaucoup. La main droite tremble encore, c'est pour ça que je prends le micro main gauche, mais je n'arrivais pas à tenir ma tartine. Du coup, il fallait trouver un moyen de comment on tient sa tartine et pour arriver à le faire tout seul. C'est pas mon père qui allait être là tout le temps. Du coup, elle mettait un poids, on essayait un poids de 200 grammes sur le poignet pour voir si ça me calmait un peu. Puis en poids de 500, on essaye de voir, et puis ça, c'est un ergothérapeute. Et en gros, l'ergothérapeute te dit qu'il faut elle te fait faire de la cuisine, elle te fait faire plein de choses que tu fais au quotidien. Donc je me suis dit, ben, en fait, c'est simple, je vis tout seul et j'aurais pas besoin de faire l'ergothérapie. Si je vis tout seul de façon autonome, je ferai exactement ce que je fais dans un centre.
Ouais.
Du coup, ben, vivre et faire du sport, c'était ma rééducation. Pour revenir. Mais j'ai encore des séquelles, mais ça se voit plus. Je vis avec.
Mais, non, mais bravo en tout cas de rien avoir lâché et pour tout le chemin parcouru. Tu vois, moi je te dis, je m'en serais pas douté. Tu vois, avant qu'on ait cette conversation aujourd'hui ou même hier et avant-hier quand j'ai commencé à bosser l'interview, tu vois, je me suis dit ah putain, peut-être qu'il y avait des trucs. Mais sinon, je m'en serais pas douté une seconde. Tu vois. Donc chapeau mec.
Bah, merci.
Bien joué.
Merci.
Qu'est-ce qui se passe entre ce marathon et la première fois que t'entends parler de l'Aerox?
Il se passe beaucoup, beaucoup. Parce que du coup, une vie après accident, c'est plus intense qu'avant, on va dire. Après ce marathon, du coup, j'étais encore à Marseille. Je finissais mon master, enfin master 1, j'étais. Je me rends compte que finalement, c'est pas du tout la voie que je veux garder. Et là, je voyageais. J'avais toujours envie de voyager. Donc, j'ai dit, bon, bah, facile. Je vais faire très original. Je vais partir là où personne ne va. En Australie. Personne n'allait en Australie. Allez. Non, je me retrouve avec tout le monde en Australie, mais il fallait que je parte loin. Je suis parti loin. J'ai repris une autonomie que j'avais perdue, enfin que j'ai recommencé à reprendre à Marseille. J'ai repris une routine sportive encore plus intense. J'adorais ça. Là-bas, il y avait des studios qui s'appelaient F45. C'est une franchise australienne que j'ai adoré faire, que j'ai fait très régulièrement.
C'est quoi le concept?
C'est Functional 45, donc c'est 45 minutes d'entraînement fonctionnel.
Ok.
C'est clairement ce qu'on retrouve dans les bootcamps typiques et ce qu'on peut retrouver dans du IROX aussi.
Ok.
Donc je prends part à ça. J'adore, je fais que ça quasiment. Je vis ma vie australienne dans les fermes, dans des boulots un peu à droite à gauche, je voyage.
Tu fais du fruit picking, tu fais ce genre de choses.
Je fais pas ça, moi j'étais plutôt dans une ferme qui élevait des cochons.
Ok.
Rien à voir, mais très cool. Et du coup, j'achète mon van. C'est une année où j'étais vraiment en introspection totale. J'avais envie de faire un...
T'es tout seul ?
Tout seul. J'achète un van. J'ai du coup bossé dans la countryside australienne. J'achète un van, pas isolé, rien, avec qu'un matelas à l'arrière, on était en plein hiver. Et je me retrouve à vivre dans mon van, en fait. Je bossais dans la ferme, je me lavais tous les jours à la salle de sport, je me lavais à la salle de sport. J'avais mon réchaud et j'ai vécu comme ça pendant 4 mois, à méditer tous les jours, à lire beaucoup, à m'intéresser au bouddhisme, enfin vraiment à me faire une introspection totale de mon enfance à maintenant, ce qui est marché par marché, enfin je suis allé très loin, abstinence de toute consommation d'alcool, peu importe, cigarette, sexuelle, rien pendant 4 à 5 mois, vraiment, j'ai été chercher des choses que je n'avais pas forcément eu l'occasion de tester. Et au bout d'un an, je rentre en France en me disant « Bon, bah c'est bon, maintenant, il va falloir que je taffe dans un métier qui m'intéresse. Mais quoi faire ?» J'ai fait des études, mais ça me plaisait pas forcément. Du coup, j'ai des potes qui sont dans le cochon, d'ailleurs, à Paris, la maison Montali, ils distribuent du cochon aux restaurateurs parisiens, qui m'embauchent comme livreur. Livreur, donc je faisais ça le matin, je faisais du 6h-13h, je livrais du cochon à Paris. Toujours en gardant cette routine sportive qui était les plus importante pour moi, c'était le sport, ce qu'il y avait à côté c'était pas grave, et c'est le sport avec les gens, j'ai adoré partager ça et réunir des gens, viens on fait ci, viens on fait ça, donc on a fait que ça. Et à un moment je me suis dit, mais en fait ce qui me plaisait beaucoup en Australie, ce concept F45, il n'existe pas en France, et je prends la map mondiale et je me rends compte qu'il y en a partout dans le monde, des clubs 40 à Londres, mais en France et en Allemagne il n'y a rien. Je fais, ah, ok. J'envoie un mail. Bonjour, je suis intéressé. Je connais le concept. Ça fait un an que j'en fais partout en Australie. C'est quoi votre politique en termes de franchise en France? Parce que je suis intéressé. Elle me dit, écoute, on aimerait bien, si ça, à Paris, tout ça. Ok, très bien. Je suis hyper intéressé. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça. Et là, je vais monter un projet F45 avec un pote à moi. Et on avait l'ambition d'être le premier club F45 en France. Donc, on passe sur 6 mois de montage de projets, de dossiers, budget prévisionnel, sur 5 ans, enfin voilà, la classique. Et on arrive à l'étape où, par contre, il faut trouver un local. Le local à trouver à Paris, c'est pas évident. C'est très cher. Et eux, ils voulaient absolument un rectangle de 150 mètres carrés, sans poteau, sans rien, à Paris, ce genre de surface, on ne les trouve pas dans Paris Centre. Ou alors, très très cher. Du coup, ça tarde un peu. Le Covid arrive et du coup, projet avorté. Enfin, projet mis en pause. On s'est dit, bon, il y a un premier Covid, on reprend après. Entre-temps, après le Covid, la responsable du développement F45 sur l'Europe me dit, Max, je vois comment tu bosses, viens, on s'associe pour ce projet-là. Donc, en plus de ça, la responsable qui se met dans l'équipe avec moi, plus une autre amie qui est avocate. Donc, on est 4 sur le projet. Et on se met à rechercher encore. Sauf que Paris, trouver un lieu compliqué. Donc je dis, bon, on arrête là, on pose là. De toute façon, ça va être compliqué. Ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça, finalement. Et puis là, il y a un deuxième confinement qui sort. Je dis, bon, bah, repose. Moi, je me confine dans le sud, dans ma famille, près de la frontière espagnole. Et là, je commence à monter un groupe de sport en visio. Donc, tous les soirs à 16h, on avait un groupe de sport en visioconférence. Et on n'a jamais fait autant de sport pendant le confinement que dans toute ma vie. J'ai fait des perfs que j'avais jamais pu faire avant. On a fait un semi-Ironman pirate. J'avais fait 17 minutes au 5K. Enfin, un truc improbable que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, je crois. Et là, je me dis, j'adore ça. Et je crois que je veux vraiment bosser dans le sport, mais partager cette passion du sport que j'ai. Et le seul moyen, c'est de devenir coach sportif à l'époque. Du coup, je passe un brevet de coach à la sortie de ce confinement. Je passe un brevet de coach en un an à Paris. Première fois de ma vie, je ne suis pas le mec le plus scolaire de l'histoire. Je sors major de promo en validant toutes les diplômes, option A et B, premier coup. Je fais super. Et grâce à mon réseau parisien, j'ai très très vite une routine et des clients dans ma pratique, dans mon coaching à Paris, très vite. Et c'est allé assez vite finalement. Mais j'ai toujours gardé cette ambition de je coach, mais j'ai aussi envie de créer des groupes de sport, de gens qui se regroupent à Paris et qui font du sport ensemble. Et du coup, on a commencé à. Je fais des cours au Chaumont, je fais des cours à Martin Luther King, je fais des cours aux Tuileries. J'en faisais un peu partout. J'adorais vraiment ce côté rugby qu'on avait, la communauté, la passion, l'entraide, le partage. Mais c'était toujours sous la houlette de Maxime Coaching, tu vois. Et puis un jour, je tombe sur Geoffrey Voisin, que tu vas recevoir, je pense, prochainement, sur une publication Instagram où je le vois faire une. Il est champion premier numéro 1 à une compétition Irox en Espagne. Je suis à Irox, c'est quoi ce truc-là? Et je regarde et je fais mais attends, mais le format est génial. On fait 1 km de course à pied, un exercice et on fait ça 8 fois. Les 8 exercices sont différents et sont hyper simples à réaliser par tout le monde. Que tu aies 20 ans ou que tu en aies 70, tu peux le faire. Et ça, c'est hyper cool parce que ça correspond à un effort que moi je savais faire. Ça peut être challengeant parce que comme une course à pied, un semi, il y en a qui vont le faire en 2 heures, d'autres qui vont le faire en 3 heures et demie. Mais le but, certains vont chercher une perf, d'autres juste à finir. Là, moi, j'étais clairement dans l'optique où je cherchais une perf, mais je me disais aussi, top, les clients, ils peuvent le faire en mode, je veux juste finir, en mode challenge, tu vois. Donc, je me mets personnellement là-dedans, à faire en tant qu'athlète des compètes Irox. Première compète, c'était en janvier 2022 à Essen, en Allemagne. Et j'avais mis 1h14 pour faire ma première compétition. Assez content. Première compétition que je fais avec des chaussures de CrossFit. Donc pas du tout adapté pour la course à pied. Mais en tant qu'athlète, je me dis, ok, c'est cool. Mais comme je te dis, ce qui serait bien, en fait, c'est que mes clients se préparent à ça. Mais sauf qu'en France, personne n'en parlait à l'époque. Il n'y avait personne. Genre, on était des extraterrestres à faire du Irox. Les mecs, ils poussent des chariots, ils tirent des chariots, ils font des burpees, ils font 8 km, mais c'est des hobards. Et sauf que moi, je dis, c'est pas grave, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'entraîner un minimum, on se met ça en ligne de mire. Et ce qu'on va faire, ce qui est bien à Irox, c'est qu'on veut le faire seul, ou à deux, ou même à quatre. Du coup, je commence à me dire à mes clients, viens, en avril prochain, on a une compète en Espagne, on va se préparer, on va la faire toutes les deux. Donc ça enlève la pression de j'y vais tout seul. Un marathon, tu envoies la personne toute seule, même si tu l'as préparée, elle est seule face à l'effort. Mmh. Là, tu peux quand même l'accompagner du début à la fin. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et j'ai commencé à amener des clients. Après, j'ai commencé à convertir les gens de la salle de sport dans laquelle je bossais à Paris, à R2, à venir essayer avec moi. Et je me suis mis à créer un groupe. Au début, l'histoire, c'est viens, on part à 5, 6, on loue une grosse maison à Barcelone. La compète, c'est samedi. On fait la compète. Et puis le samedi soir, on peut aller un peu faire manger des tapas, boire des tintos de Verano. Et le dimanche, on profite. Tu vois. Et ce projet que je voulais vendre à 5, 6 personnes au départ, ben, je me retrouve avec 32 personnes. Je fais ah, bon, ok, donc là, leur gars, ça va être différent. Et du coup, je me dis, bon, il y a 30 personnes, 32 personnes intéressées, ok. Bon, l'étape suivante, c'est qu'il va falloir trouver un nom à ce groupe. C'est cool si on a un nom de groupe. Donc là, je cherche, j'ai un groupe que j'ai appelé l'Aérogang dans mes cours de sport. C'est Aerobic Capacity. Comme c'est un groupe aérobic, Aerogang, allez, le nom est validé. Je dis, ok, maintenant, il faut un logo, un t-shirt qui représente un peu ce groupe-là. Et je demande à un pote du groupe, designer, et je lui dis, Greg, est-ce que tu peux nous dessiner le logo Aerogang, toi? Il nous fait un truc trop stylé. Donc je dis, c'est bien, on a un nom de groupe, on a un t-shirt. Maintenant, ce qu'il nous faut, C'est l'hôtel tout sur place. Donc là, je m'occupe de réserver pour 30 personnes un hôtel à Barcelone. Je m'occupe de réserver le restaurant du samedi soir, le bar d'après. On avait le nom, le logo, les personnes. Il fallait juste qu'on y aille.
Maxime, agence de voyage.
Exactement. On y va. Et je dis, bon, ce qui sera encore mieux, c'est que sur place, on est un vidéaste et un photographe qui filme toutes nos péripéties. Donc, on a une équipe qui nous a suivis du matin au soir et qui nous a fait des vidéos qui étaient juste incroyables. Et sauf que toutes les personnes que j'avais amenées n'avaient jamais fait de Aerox avant. Moi, j'étais à ma sixième course, donc je savais ce que je vivais. Et donc, je me rappelle que la veille, au soir à l'hôtel, on avait fait un briefing. Faites attention à ci, attention à ça, ces nuances-ci, ces nuances-là. Et c'était assez drôle du coup parce que tout le monde a découvert une pratique et tout le monde s'est passionné ce truc-là derrière. Aerox, c'est simple, on essaye une fois, on n'a qu'une envie, c'est revenir après et refaire et se réentraîner, être encore meilleur. Et pour l'histoire qui est assez drôle, c'est que donc la première, ça c'est en février 2023, on a eu le temps de motiver, mars 2023, le 18 mars, on fait notre première réunion Aérogang, officielle. On a déjà fait plusieurs compètes parties avant, mais pas officielles. Là, c'est la première Aerox officielle avec un nom de groupe officiel et à Barcelone. Et le dimanche, au retour, salle d'embarquement de l'avion pour rentrer à Paris, je vois le fondateur de la marque Aerox, enfin de la discipline, qui passe devant moi. Et je dis à mes potes, regardez, c'est Christian, c'est lui qui a créé Aerox et tout. Moi, ça faisait 1 an et demi que je pratiquais comme un dingue. C'est comme si je voyais le pape qui passait devant moi, tu vois. Et je suis, waouh, et tout. Et en fait, il se trouve qu'on avait un ami en commun, Paul, un Anglais qui connaissait Christian et qui me connaissait de chez Erdo aussi, qui était aussi là pour ce week-end. Il passe devant moi, il va voir Christian, le fondateur, et il me regarde, il fait, hey Max, viens, viens. Ah, t'es sûr de ce que. Non, non, tu vois, moi j'étais. J'avais dormi 2 heures cette nuit-là, j'étais pas en forme totale. Et là, j'ai dit, bon, ok, j'y vais. Et je me présente, Christian, salut, Max, machin. On m'a parlé de toi, j'entends parler de toi, de ce que tu fais en France, tout ça, super, tout ça. Je fais, ouais, merci, c'est cool, tout ça, et trop bien, on parle, on fait connaissance. Et il me dit, bah, tu sais quoi, je rentre à Paris moi aussi, hein, je suis à Paris pour 2 jours. Ce serait cool que demain on se voit pendant 1 heure. Si tu veux, demain je viens à ta salle de sport à 10 h. Ok, on y va. Et du coup, le lendemain, je me retrouve à 10 h à la salle de sport avec Christian et un investisseur allemand qui était là aussi. Je fais bon, d'accord, on fait le tour de la salle, on discute tout ça. Au bout d'une heure, on va au café au bout de la rue et on discute de Aerox. Il me commence à me demander mon histoire, d'où je viens, ma passion pour Aerox, tout ça. Et là, moi, naïf, encore une fois, je dis, vous savez quoi? Aerox, je suis fan du concept, mais vraiment. Donc, si jamais vous avez un projet d'ouvrir un Aerox, créer un Aerox en France, vous avez besoin d'un mec pour aller monter des meubles, monter des tapis, tout ça, je suis là. Moi, je suis là pour vous aider. Il dit, ouais, trop cool, machin, il prend mon numéro. Je dis, mon mec est poli, il me rappellera à jamais, tu vois. Et la vie avance. Et il se trouvait qu'à l'époque, moi, je bossais pour Fitness Park. Je programmais 17 clubs en Île-de-France. C'est moi qui donnais la prog des Burning Park, donc je créais la prog. Et pur hasard, je vais en Espagne faire une compète Aerox à Malaga et je me rends compte que Fitness Park est sponsor des compètes en Espagne, Aerox. Et là, je fais, ah, intéressant. Je rentre, je dis à Fitness Park, est-ce que ça vous intéresse que je vous mette en contact avec le patron Aerox? Parce que je sais qu'il serait intéressé potentiellement d'un partenariat. Et je demande en même temps au patron Aerox, est-ce que tu serais intéressé de parler à Fitness Park? Parce qu'on avait changé nos coordonnées, tu vois. Et il dit oui. Donc là, je suis mis en relation. Ça se passe bien. Et j'ai pas de nouvelles. Je dis bon, bah, ça avance. Et puis, 1 mois et demi après, je reçois un message de ce Christian et joli. Max, on cherche à développer le business en France. On a besoin d'un profil comme le tien. Est-ce que tu serais intéressé? Fais. Attends, je regarde mon téléphone. Je fais. C'est bien moi qui s'adresse et tout. Je fais, bah ouais. Ok, on s'appelle demain. Ok. Il m'appelle le lendemain et me dit bon Mac, voilà, on a réfléchi, on pense à que la France est mature, c'est maintenant, il faut qu'on organise un événement maintenant, tout ça, avant la fin de l'année, parce qu'après c'est les JO, donc il faut le faire cette année, tout ça. Est-ce que tu serais intéressé par ce genre de posture? Mais là, je te parle d'un poste à temps plein, au niveau national, il y a une stratégie à réfléchir, il y a un budget à réfléchir aussi, enfin, on parle d'un vrai travail à temps plein, pas coach, tu vois. Et je fais, ok, moi j'avais 35 heures de coaching par semaine, j'ai dit, ok, il faut que je m'organise, mais on peut trouver un accord, je pense. Je pense sincèrement qu'on peut trouver un accord. Moi, dans ma tête, était juste, mais c'est un truc de ouf ce qui m'arrive. Il me dit, ok, bah, si t'es intéressé, viens demain au siège en Hambourg. Ouais, non, je vais pas partir de mon siège en Hambourg, mais je vais me préparer la semaine prochaine, si tu veux, je viens. Et donc, 6 jours plus tard, j'étais au siège de Aerox à Hambourg. J'arrive à 8 heures, il m'avait invité à 8 heures. Je passe la journée à faire des workshops avec le logistique, avec la communication, avec le marketing. Je passe ma journée avec toutes les équipes Aerox. Donc, faut bien se rappeler que je suis qu'un athlète Aerox, un pur passionné et personne d'autre. Mmh. Et là, je me retrouve au siège de Aerox parce que le patron m'a demandé de venir et qu'il me demande de gérer le Aerox en France. Donc, si tu veux, eh bien, c'était passé trop vite. Je savais pas trop pourquoi c'était là, tu vois. Parce que j'avais rien demandé à personne. Moi, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Max, est-ce que t'as intéressé? Et du coup, je passe ma journée, fin de journée, le Christian m'invite au restaurant, on dit tous les deux en tête à tête, et là, il me fait une proposition. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai dit, bon, bah, ok, banco, quoi. Et donc, 3 mois plus tard, je prenais mes fonctions de responsable Aerox en France.
Et c'était quand ça?
Et ça, le début officiel, j'ai commencé à bosser à partir du mois de mai parce que la recherche de lieu de l'événement, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui ai trouvé le lieu de l'événement. Mais on a annoncé officiellement le lieu le 8 août.
Ok.
Et les premières personnes de l'équipe française sont arrivées mi-juillet. Donc avant ça, moi je bossais, on n'avait pas de bureau, on avait juste. Moi je bossais chez moi sur le projet. Mais l'ouverture officielle en France date du 8 août. Et donc ouais, c'est en gros le cheminement entre Marseille, premier raton et Aerox, c'est à peu près ça.
Waouh,
la passion histoire. Du sport et du partage, ça joue. Et l'amour.
Et du coup, ouais, tes premières missions, c'est de trouver un lieu, d'aller voir, t'as le cahier des charges un peu à Aerox. Et du coup, le lieu, tu dois t'assurer qu'il valide.
Oui.
Monter le site, j'imagine. Tu dois aller voir les clubs aussi pour essayer de trouver des clubs affiliés.
Non, au départ, c'est vraiment... En fait, c'est là où j'ai été, c'est Max. Par contre, ils m'ont dit, ton boulot, on va pouvoir l'activer de façon officielle si on a un événement en France. Donc, si on a une réelle ouverture de marché en France. Donc, en fait, si je ne trouvais pas un lieu, il n'y avait pas de taf chez Aerox. Continuer mon coaching. Donc, si tu veux, moi, je dis, ok, je vais tout faire. Je vais vous trouver un lieu, vous inquiétez pas. Et donc, j'avais commencé au début avec le stade du Racing Métro 92, parce que c'est un stade qui se ferme et qui l'accueille des autres que des matchs de rugby, pour après m'orienter plutôt vers Porte de Versailles. Mais.
T'avais ce réseau-là? C'est des gens que tu comptes. Comment tu contactes ces gens-là?
Ben, comme j'ai joué au Racing et que la plupart des mecs qui j'ai joué sont devenus pros après, j'ai encore des contacts dans les pros aujourd'hui du rugby, tu vois. Mmh. Du coup, j'avais des contacts au Racing qui m'ont dit, va voir ces personnes-là. La personne qui est en charge de Porte de Versailles de notre événement, Nicolas, c'est un ancien pote à moi du rugby avec qui j'étais en internat sport-études. Qui lui était à l'époque à la commission, enfin à la fédération française pour l'organisation de la Coupe du Monde. Donc il avait les contacts des lieux, c'est lui qui m'a mis en contact avec cette personne-là.
Ok.
Le réseau, c'est le réseau hyper important et j'ai la chance de l'avoir parce que j'ai évolué dans les sphères rugbystiques à Paris et que finalement, on connecte beaucoup dans le monde du sport en tout cas.
Ok. Et depuis, du coup, maintenant, Aerox, c'est quoi? C'est 3 villes, les championnats du monde aussi organisés. C'est toi qui as géré un peu? Vous avez dû gérer un peu avec la Team France les championnats du monde qui ont lieu à Nice, là, au mois de juin.
C'est ça, du 7 au 9.
Allez voir, d'ailleurs, si, Si vous connaissez pas et que vous êtes dans le coin, vraiment allez voir, ça vaut le détour, c'est des ambiances de dingue.
C'est la compétition de l'année. Tous les meilleurs athlètes mondiaux viennent à la Coupe du Monde, donc c'est hyper intéressant.
C'est quoi, c'est 10 euros pour être visiteur, c'est quelque chose comme ça?
C'est ça, ouais. C'est 10 euros exactement.
Okay.
Et c'est sur 2 jours, même 3 jours. Il y a les élites 15, donc les 15 meilleurs mondiaux qui passent le vendredi soir. Et après, le samedi et dimanche, ce seront que les personnes qui se seront qualifiées. Donc, admettons, toi, Bart, demain, tu fais une compétition à Paris. Tu peux te qualifier pour la Coupe du Monde.
Okay.
Si tu es dans le meilleur de sa catégorie d'âge. Et donc, il faut que
le meilleur de sa catégorie d'âge sur une ville, c'est ça?
En fait, à Irox, la course est donc accessible à tous.
Mmh.
Elle se décompose en divisions. Donc, soit on le fait seul, soit on le fait à 2 ou à 4. Et quand on est seul, on est soit en homme ou open, c'est-à-dire des poids classiques pour tout le monde, soit des poids pro. Chaque tranche d'âge, tous les 5 ans, c'est une nouvelle division.
Mmh.
Donc de 18 à 24, après de 24 à 30, 30, 34, etc. Et à l'issue de la course, on peut être classé premier de sa catégorie d'âge.
Mmh.
J'ai 56 ans, je suis 42e au général, sur tous les athlètes qui sont passés dans ma catégorie homme seul. Mais mon temps me permet d'être classé premier de ma catégorie d'âge 50-55.
Mmh.
Et du coup, cette personne-là, si elle est première, elle est qualifiée pour la Coupe du Monde à Nice.
Ok. Donc, c'est les premiers de chaque catégorie d'âge et
c'est
chaque catégorie de poids.
Premier, ouais, deuxième ou troisième.
Ok. Sur un événement.
Avant chaque compétition, on donne le nom exact de personnes qui sont qualifiables le jour de la course. Donc, on sait d'emblée, avant la course, si on finit cinquième, on ne pourra pas être qualifié.
Okay.
Sauf si les 3 premières personnes ont déjà été qualifiées
sur une autre
dans
course.
D'autres compétitions, il y a un roll-down qui s'est fait et du coup, on peut bénéficier de ce truc-là.
Ok. Ouais, donc il y a une vraie ligue, il y a un vrai esprit de challenge où forcément les gens ont envie de progresser et d'avoir l'opportunité d'être inscrit au championnat du monde.
Exactement.
Ok, bon, bah ça me fait un bel objectif. Puis moi, je suis dans la catégorie la plus dure. Franchement, 30-34.
C'est la plus dure. C'est où il y a plus de monde.
Il y a du monde. Hein.
Moi qui était là à l'époque, je finissais 3-4e sur des compétitions. Aujourd'hui, c'est un joual avec le même niveau. Mmh. Il y a tellement de monde qui est arrivé. Pour jouer les premières places, c'est un vrai entraînement de haut niveau.
Ouais.
Mais c'est ce qui est cool dans ce sport-là, c'est que c'est tellement hybride dans le sens où tous les sports peuvent t'amener à performer. C'est ça qui est cool, c'est que l'entraînement, il est hyper intéressant. Autant de la musculation que faire du crossfit, que faire du trail, que faire du vélo. Il y a le nage, il y a tout qui peut rentrer en jeu dans la préparation. Et tout doit rentrer en jeu si on veut être l'athlète le plus complet possible.
Ouais.
Et c'est ça qui est cool. Le but, c'est de mettre en Irox, c'est vraiment mettre en exergue les qualités les plus complètes qu'un athlète puisse avoir. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Si j'ai aucun objectif sportif particulier sur un sport en particulier, et que j'ai juste l'envie d'être une personne la plus complète en termes sportifs, être fort, être endurant, être cardio, pouvoir courir, faire du vélo, porter des courses, déménager, peu importe, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement comme ça qu'il faut faire.
Ouais. Non, et puis surtout, ça vient mettre des compétitions sur aussi sur toutes les personnes qui faisaient du fitness.
Bien
sûr. Et avec sans vrai objectif de performance, tu vois.
Bien sûr.
Et souvent, une petite critique qui pouvait être que c'était soit le crossfit trop dur, soit faire du sport à la salle, c'était
juste pour
s'entretenir. En fait, il n'y avait pas de performance.
Exactement. Il n'y avait pas entre deux. C'est ça qui était. En fait, Irox vient vraiment pas réinventer une manière de s'entraîner, mais vient juste innover dans la compétition qu'elle propose.
Ouais.
Le sport qu'elle propose, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait en effet peut-être du crossfit, des compétitions, il y avait des Spartans, il y avait des trails, il y avait de la course à pied, il y avait de la musculation pure, strict lifting, powerlifting, mais il n'y avait pas une compétition qui ressemblait à ce qu'on faisait à l'entraînement, ceux qui ne faisaient pas tout ça. Je vais en salle de sport, je fais un bootcamp, peu importe où. Je soulève des poids, des haltères, des KB, je cours un peu, je fais de la muscu. En fait, quelle compétition à l'époque ressemblait à ça? Il n'y avait pas. C'est soit je faisais de la course à pied, mais finalement, je fais de la muscu 3 fois par semaine. Quand je fais de la course à pied, ça ne correspond pas. Enfin, je dois mettre la musculation en pause pour la course à pied, ou alors ralentir. Si je fais compétition de muscu, je dois ralentir la course à pied pour faire la musculation. Là, on peut combiner toutes les disciplines pour être le meilleur le jour J. Et c'est ça qui est cool.
Ouais.
Et sans pression. Il n'y a pas de pression de temps. Si on veut finir vite, on le fait. Si on veut le finir en 4 heures, on peut le faire. Il n'y a aucun cap time. Et c'est ça qui est cool.
Ouais. Et ben écoute, je confirme sur avoir fait l'événement de Paris en 2023, c'était une vraie réussite et je trouve que il y a une super ambiance. Et on sent que tout le monde est le bienvenu et qu'il y a un respect entre les participants qui est plutôt génial, tu vois. Peu importe le niveau de chacun et ça fait plaisir à voir. Donc longue vie à cette compète. On vient de terminer l'événement de Bordeaux au moment où on va publier cet épisode. Vous avez annoncé l'ouverture à Paris. Il y a un autre événement aussi en septembre à Nice. S'il y a des auditeurs et des auditrices là d'extraterriens qui découvrent Aerox en t'écoutant, comment ils peuvent s'y intéresser? Comment est-ce qu'ils peuvent? Où est-ce qu'il faut s'inscrire? Où est-ce qu'on peut aller chercher des clubs où s'entraîner pour Aerox? Dis-nous un peu tout là le parcours pour s'intéresser à pouvoir mettre le pied dedans.
Ok, en gros, nous notre site internet recense, il y a une map qui recense tous les clubs qui sont affiliés à Aerox en France. Donc ils proposent des entraînements, des programmations Aerox en France. C'est le moyen le plus simple pour trouver la salle près de chez toi. J'habite à Pau, je tape Pau, je regarde, je mets un cercle de 10 ou 20 km autour de Pau et je sais qu'il y a telle ou telle salle qui propose une préparation. Ça, c'est le premier pied pour découvrir la pratique. Ensuite, sur le site, pareil, il y a toutes les courses recensées dans le monde. Donc, on peut savoir à tout moment où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que le 6 février, je vais là ou ailleurs. Toutes les courses sont recensées. L'inscription se fait directement sur le site, en ligne. Toutes les informations de la course sont aussi indiquées. Savoir à quelle heure on va passer approximativement, l'adresse exacte, tout ça. Pour pas avoir peur, le format Aerox peut faire peur de base. J'ai souvent des gens qui me disent « Mais pousser un chariot avec 100 kilos, mais je peux pas le faire, tout ça. » Ça, c'est ce qu'on appelle un blocage mental, psychologique. C'est que on pense qu'on peut pas le faire, mais moi, je vous dis à tous, les auditeurs, qu'on peut le faire. Et on peut clairement le faire, et même beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Il faut essayer. Parce qu'une fois qu'on essaye, on n'a qu'une envie, c'est y revenir. Et ce que j'ai adoré en découvrant ce sport, et c'est ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie communauté, pas seulement le jour de la compétition, mais au sein des salles. Il y a un esprit de c'est cool, on va tous y aller ensemble, on va tous aller à Bordeaux ensemble pour un week-end, et on va se préparer ensemble. Et tous, c'est des compétiteurs comme des personnes qui sont pas les plus régulières au sport. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ce que tu as, je pense, ressenti le jour à Paris, où tu avais tout type de population mélangée au sein d'un même lieu, mais pour une course sportive, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Moi, en tant que coach, mon but dans la vie, c'est de faire en sorte que toutes les personnes impriment le fait qu'une routine quotidienne sportive est hyper importante et que pour y arriver, un challenge est le meilleur moyen d'arriver à ses fins. Parce que si on se fixe un but, comme je disais tout à l'heure, on va mettre les étapes pour y arriver.
Ouais.
Et du coup, c'est pour moi une des façons les plus simples de pouvoir se fixer des objectifs parce qu'elle correspond à beaucoup et elle est facilement accessible dans les salles qui sont affiliées chez nous.
Ok. Et ouais, pour même surenchérir par rapport à ce que tu as dit, la grande réussite, je trouve, de ce format-là, c'est que effectivement, les personnes un peu plus débutantes ou qui n'ont pas une pratique hyper active comme nous, on peut l'avoir, vont trouver beaucoup de satisfaction personnelle à terminer l'événement parce que c'est un événement qui est très complet, sur lequel il y a beaucoup d'exercices et dans lequel on transpire, quoi. Donc, il y a un vrai challenge personnel. Et puis, pour nous, qui ont peut-être un peu plus une culture de performance et d'entraînement, ça reste très challengeant à préparer, en fait. Il faut préparer de la course à pied, il faut préparer sur chacun des ateliers. Donc, il y a un vrai travail aussi, je trouve, intellectuel pour essayer de créer une bonne programmation, une bonne préparation qui fait qu'effectivement, bah, on est vite piqué par le virus et on a envie de réessayer, quoi. Puis il y a beaucoup de choses à découvrir. En course à pied, on sait un peu les méthodes qui marchent, tu vois. On sait un plan d'entraînement pour faire un temps. Voilà, le plan d'entraînement, il est écrit en fait 3, 4, 6 mois à l'avance. Là, comme c'est nouveau, il y a plein de choses à réécrire, plein de choses à inventer. Et on voit qu'il y a encore plus d'adaptations à faire en fonction des personnalités. Et donc ça, c'est hyper stimulant, je trouve. Trop bien. Et puis en plus, si jamais vous avez envie de vous y mettre, je sais que toi, tu partages pas mal des entraînements sur ton compte Insta. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et aussi sur le compte de Aerox France. Aerox FR, il me semble.
Exactement.
De mémoire. Putain, je suis un bon élève. Mais écoute, très cool, très cool. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur l'événement? On a fait un peu le tour là sur les championnats du monde. On a fait un peu comment s'inscrire. Je crois qu'on a bien potassé là.
Ouais, je veux juste ajouter qu'on prépare une grosse édition en 2025. Ça, c'est une grosse surprise.
D'accord.
Voilà.
Bah écoute, trop bien. Bon, en tout cas, ça encourage à suivre. J'ai mes petites questions de la fin que je pose à tous mes invités. C'est des petites questions un peu plus inspirationnelles et qui permettent de mieux te connaître. La première, ça m'intéresse parce que t'as dit que t'avais pas mal lu et que t'avais fait pas mal d'introspection pendant un moment. Est-ce que toi, il y a un bouquin, un film ou un créateur de contenu, une source d'information que t'aimes tout particulièrement et que t'aimerais recommander aux auditeurs et aux auditrices pour parler un peu des sujets qu'on a abordés aujourd'hui?
Il y a en effet un livre, mais je suis pas sûr d'être encore une fois très original, mais c'est Miracle Morning.
Ok.
Miracle Morning, c'est, je crois que je l'ai offert à 6 ou 10 personnes après l'avoir lu. Et okay. Ça arrivait juste après mon accident, dans la phase où on essaie de se redévelopper personnellement. Du coup, il y avait beaucoup de lectures à ce sujet-là à l'époque. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais celui qui m'a le plus marqué, parce que le livre ressemblait un peu au parcours où j'avais eu un accident, tout ça. Et tous les tips qu'il a mis, en fait, je m'en sers encore aujourd'hui. Comme tu le sais, je me lève très tôt le matin. Mais c'est lié à ce Miracle Morning que j'ai commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, 6h45, c'était tôt. Maintenant, c'est 4h tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus inspiré, ce que je garde encore. Mais je ne l'ai pas relu. Et je me dis à chaque fois que je relise pour me le remettre en tête.
Ok. Mais je confirme, Max se lève bien à 5h du mat. Je reçois des petits messages pour fixer les rendez-vous d'entraînement très tôt le matin. Et moi, je suis encore en train de roupiller. Je ne sais pas comment tu fais. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je suis en train de lire Why We Sleep de Matthew Walker, un vrai bouquin masterclass sur le sommeil. Donc, fais attention à pas te lever trop tôt non plus le matin. Voilà.
Merci, Bart. Je vais essayer.
Est-ce qu'il y a un mantra ou une phrase que tu te répètes souvent et que t'aimes bien te rappeler dans les moments un peu de doute, dans les moments voilà dans lesquels t'as besoin un peu de courage? Quelle phrase t'aimes bien te rappeler?
Il y a ce que tu as. Est-ce que tu en fais? Pour moi, tout arrive. Il faut juste l'accepter et voir ce qu'on fait avec ça.
Eh ben, écoute, très belle citation. Je me la mettrai dans mon petit mood board aussi. Je la trouve plutôt cool. Il y a ce que tu as et ce que tu en fais. Très court, simple et efficace. Ça veut tout dire. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir quel est le ou la prochaine invité que tu me recommandes d'aller interviewer. Ça peut être soit un athlète que tu connais, soit une athlète que tu connais pas nécessairement, dont tu aimerais bien découvrir le parcours et dont tu penses que ça serait une bonne personne à inviter sur Extraterrien.
Très bonne question.
Bon, il y a Geoffrey déjà.
Il y a Geoffrey
qui va arriver.
Il y a Geoffrey qui va arriver.
Tu peux m'en citer plein aussi, je ne serais pas.
En fait, j'ai évolué dans un milieu sportif où t'as beaucoup de mecs que j'aimerais. Mais tu vois, ce serait intéressant peut-être que tu te rapproches d'un mec qui s'appelle Jonathan Danty, okay. Qui est le centre de l'équipe de France de rugby, avec qui on a commencé à l'âge de 14 ans ensemble, on a joué longtemps ensemble. Il a un parcours hyper intéressant. Beaucoup, mais moi j'aime beaucoup cette personne-là et je pense que c'est hyper intéressant d'échanger avec lui.
Ok. Eh ben écoute, je te prendrai les coordonnées tout de suite après. Merci beaucoup Max pour
Merci
ce moment.
Beaucoup,
j'espère que ça t'a plu.
C'était top. Première expérience. Et première fois que je parle autant de mon histoire, donc c'est
1h20, on est. Bravo. C'était génial. L'histoire est absolument incroyable et elle m'a beaucoup ému, en tout cas. Donc, j'étais ravi de te redécouvrir comme ça. Et puis, j'espère qu'on pourra s'entraîner encore longtemps ensemble. Voilà.
Bien sûr.
Et j'en profite pour faire une grosse bise à Elo, sans qui on se serait probablement pas rencontré. Je peux confirmer que t'as recruté une pépite dans la team et bravo à elle pour tout ce qu'elle fait pour Aerox France. Voilà.
Exactement. Merci beaucoup Elo. Merci Bart. Merci à l'équipe.
Ciao.
Salut Bart.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.